Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety.
Saigon. Shit. I'm still only in Saigon.
Apocalypse Now, c'est un film qui aujourd'hui est considéré comme un monument de l'histoire du cinéma, un classique indémodable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il sort en 1979, il est beaucoup plus controversé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui immédiatement considèrent que c'est un classique et que c'est quelque chose de formidable, un chef-d'œuvre absolu. Mais en face, il y a tous ceux qui ne sont pas convaincus. La Palme d'Or qu'il remporte à Cannes, par exemple, ex aequo avec le tambour de Volker Schlöndorff, est très 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 discutée, très controversée. Il y a des scandales, même Françoise Sagan, qui est présidente du jury, explique que c'est pas vraiment ce qu'elle voulait faire, etc. Et aux Oscars, la même année, finalement, le film n'a que deux statuettes, celle de la meilleure image pour Vittorio Storaro et celle du meilleur son pour Walter Murch. Alors qu'on pourrait imaginer pour qu'un film de cette ampleur y ait bien plus que ça. Alors, ce film, c'est un film très personnel de Francis Ford Coppola, mais ce qui est très amusant, c'est qu'il n'est pas à l'origine du film. D'une part, c'est pas lui qui écrit le scénario, c'est John Milius qui, à la fin des années 60, a envie de témoigner de cette guerre du Vietnam qui est un traumatisme pour les Américains. Et donc, il a envie de faire un film là-dessus. Et son idée, c'est d'utiliser le roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, comme structure dramatique. Alors, dans le roman de Conrad, l'action ne se passe évidemment pas au Vietnam, elle se passe en Afrique en 1890.
How many people had I already killed? There were those six that I knew about for sure. Close enough to blow their last breath in my face. But this time, it was an American and an officer. That wasn't supposed to make any difference to me, but it did. Shit. Charging a man with murder in this place was like handing out speeding tickets at the Indy 500. I took the mission. What the hell else was I gonna do? But I really didn't know what I'd do when I found him.
Mais ce que Milius va garder de Conrad, c'est cette idée d'un officier de l'armée, en l'occurrence c'est un officier de l'armée américaine, qui est chargé par sa hiérarchie et les services secrets de la CIA de remonter le fleuve pour aller en quelque sorte intercepter un colonel de sa propre armée, donc un colonel américain, le colonel Kurtz, qui serait devenu fou, alors qu'il avait des états de service formidables, il serait devenu fou et aurait créé une sorte de royaume sanguinaire au fin fond de la jungle.
At first, I thought they handed me the wrong dossier. I couldn't believe they wanted this man dead. Third generation West Point, top of his class, Korea, airborne, about 1,000 decorations, etc., etc. I'd heard his voice on the tape, and it really put the hook in me. But I couldn't connect up that voice with this man. Like they said, he had an impressive career. Maybe too impressive. I mean, perfect. He was being groomed for one of the top slots in the corporation. General, chief of staff, anything. In 1964, he returned from a tour with advisory command in Vietnam and things started to slip. His report to the Joint Chiefs of Staff and Lyndon Johnson was restricted. Seems they didn't dig what he had to tell them. During the next few months, he made three requests for transfer to airborne training, Fort Benning, Georgia, and was finally accepted. Airborne. He was 38 years old. Why the fuck would he do that? 1966. Join Special Forces.
Commitment and counterinsurgency by Colonel Walter E. Kurtz. As long as our officers and troops perform tours of duty limited to 1 year, they will remain dilettantes in war and tourists in Vietnam. As long as cold beer, hot food, rock and roll, and all the other amenities remain the expected norm, our conduct of the war will gain only impotence. We need fewer men and better. If they were committed, this war could be won with a fourth of our present force.
Shit. Chicken time. You ain't shit, bro. The motherfucking... What's going on?
Is that you, Lazaro?
Coppola se dit, bon, je vais d'abord en faire un film à très grand spectacle, un film de guerre, un peu comme avait été Le jour le plus long ou Patton, des films comme ça, en disant, ça va me rapporter beaucoup d'argent, je pourrais passer après à des projets plus personnels. Mais dès le début, c'est compliqué, parce que, évidemment, comme il veut tourner beaucoup de scènes militaires, il lui faut du matériel de l'armée américaine, et le ministre de la Défense de l'époque, qui est, on le connaît, c'est Donald Rumsfeld, lui dit, ah ben non, pas question, l'armée américaine vous prêtera aucun matériel pour un film qui nous a l'air pas très clair sur la vision de la guerre du Vietnam. C'est pas vraiment un film militariste, on a aidé John Wayne pour faire les bérets verts, ça nous paraît beaucoup plus douteux, donc vous n'aurez aucune aide de nous. Alors, comment faire ? Un moment, Coppola pense qu'il va tourner en Australie, le Vietnam évidemment écarté, et puis finalement, c'est aux Philippines qu'il va tourner, parce que le président Marcos, le président des Philippines, a récupéré beaucoup de matériel de l'armée américaine, notamment des hélicoptères dont on a besoin pour une grande charge aérienne, la fameuse scène avec les Valkyries de Wagner, et il est prêt à les louer à la production. Alors c'est quelque chose de compliqué, parce que ça veut dire que chaque matin, on repeint les hélicoptères philippins, enfin qui sont d'origine américaine, aux armes de l'armée américaine. Et puis quand on les ramène le soir, on les repeint manière philippine. Il s'agit de faire des repérages très précis, à quel endroit on va tourner aux Philippines, et puis il s'agit de construire des décors, parce que c'est pas tout les palmiers, c'est pas tout la rivière et un bateau. Il y a quand même un certain nombre de décors en dur, et c'est son décorateur fétiche, celui qui l'a accompagné sur les parrains, Dean Tavularis, qui vient s'installer là, et qui va embaucher en fait la population philippine pour faire des constructions locales, hein, avec des bambous et de la paille de riz. Il s'agit notamment de construire quand même un pont de 230 mètres, excusez du peu, et puis le temple pour les séquences finales avec le colonel Kurtz. Alors, on s'y emploie, les choses se passent pas mal, mais dès que le tournage commence, en mars 76, les ennuis commencent. C'est-à-dire qu'après une semaine de tournage, quand enfin Coppola peut récupérer les rushs, c'est-à-dire voir ce qu'il a tourné. Alors, quand on tourne aux États-Unis, c'est facile, ou dans les pays occidentaux, ben voilà, on fait développer la pellicule, on la projette au cinéma, on voit ce qu'il en est. Là, il est à l'autre bout du monde, au fin fond de la jungle philippine, donc ça met un certain temps pour acheminer les bobines aux États-Unis, les faire développer et les ramener. Quand enfin il découvre le fruit de sa première semaine de tournage, il découvre que son acteur principal, Harvey Keitel, ne fonctionne pas dans le rôle. C'est pas qu'Harvey Keitel joue mal, c'est qu'il a prévu que Willard soit une sorte de substitut du spectateur dans le récit. C'est-à-dire que Willard doit être un personnage relativement passif pendant toute une partie du film pour que le spectateur puisse s'identifier à lui. Et Harvey Keitel, c'est pas du tout c'est un miscasting, c'est pas une bonne idée de l'avoir choisi. Donc, il a ce courage Coppola extraordinaire de dire, on arrête tout, je dis à Keitel de rentrer chez lui et moi je retourne à Hollywood chercher un autre acteur, et cet autre acteur, il y avait pensé au départ, c'est Martin Sheen. Donc, Martin Sheen, il faut recommencer à tourner l'équivalent de cette première semaine. Et puis, puis les ennuis vont continuer, c'est-à-dire que tout prend beaucoup plus de temps que prévu. Je vous ai parlé de l'armée des hélicoptères que finalement Marcos reprend, et puis alors surtout arrive un typhon qui va tout dévaster. Au départ, Coppola se frotte les mains en se disant « Eh ben voilà, une catastrophe naturelle qu'on va pouvoir filmer, intégrer au film », sauf qu'il n'imaginait pas ce que c'était qu'un typhon aux Philippines. C'est tellement énorme qu'il faut déjà se faire attention, se mettre aux abris, parce que des vies humaines sont en danger, et puis tous les décors qu'il a construits sont entièrement dévastés. Donc ça veut dire qu'il faut carrément arrêter le film pour reconstruire de zéro, tous les déjà nettoyer, peut-être trouver d'autres emplacements et tout reconstruire de zéro. Et puis après, au cours du film, c'est Martin Sheen qui va carrément faire un infarctus et qui va devoir s'arrêter pendant plusieurs semaines. Donc évidemment, on tourne quelques plans avec des doublures, etc. Mais au bout d'un moment, il faut là encore arrêter le tournage pour laisser à l'acteur le temps de se remettre. Alors, Coppola se garde bien de dire à Hollywood que son acteur a fait un infarctus. Il minimise un coup de chaleur, etc. Bon, dans les faits, Martin Sheen est stressé, il travaille trop, il boit trop, parce qu'évidemment, le tournage prend des allures dantesques et il se passe toutes sortes de choses sur le plateau qui fait que tout le monde perd un peu la raison. Lieutenant, bomb that tree line back about 100 yards! Give it some room to breathe! Yes, sir! Body cards! Sir! Bring my body cards! Yes, sir!
I carry priority papers for ComSec Intelligence, 2 Corps. I understand the Trang has briefed you on the requirements of my mission.
What mission? I haven't heard from the Trang.
Sir, your unit's supposed to escort us into the Nung.
Well, we'll see what we can do, but just stay out of my way till this is done, Captain.
Let's see what we have.
2 spades, 3 of spades, 4 of diamonds. 6 of clubs, 8 of spades. Isn't one worth a jack and a whole bunch? Order.
Hey, Captain! What's that?
Yes, sir!
Hey, what up?
Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils! Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là!
Allez, dégagez, dégagez, dégagez!
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures, et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines, sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Elle ne durera pas toujours, cette guerre.
Charlie didn't get much USO. He was dug in too deep or moving too fast. His idea of great R&R was cold rice and a little rat meat. He had only two ways home. Death or victory.
Coppola se retrouve complètement endetté, se retrouve à faire front à tous les problèmes de tournage dans la jungle, et il n'a pas de fin. Et petit à petit, vraiment, il va s'identifier avec son personnage de Willard, qui au fur et à mesure avance, et Willard ne sait pas du tout ce que va être sa rencontre avec Kurtz. Et Coppola ne sait pas ce que va être la fin. La seule chose qu'il sait, c'est que Kurtz est joué par Marlon Brando, que ça, ils ont signé le contrat, que Marlon Brando s'est engagé à revenir plutôt mince sur le plateau, et quand Marlon Brando arrive pour tourner ses scènes, il n'est pas du tout mince, il est encore plus gros qu'au moment où ils ont signé le contrat, il est carrément obèse. Donc comment faire avec ça? Et ben ça, vous allez voir les solutions qu'ils ont trouvées ensemble. Une autre attention très particulière que Coppola a pour la création de ce film, c'est son attention au son. Presque rien n'est tourné en son direct parce qu'il y a trop de bruit parasite, mais pendant les deux années que vont durer le montage du film, parce qu'il revient finalement en Amérique avec 200 heures montables de pellicules montables, donc il va falloir deux ans pour remettre tout ça en forme, il va parallèlement travailler sur le son. Il voulait faire son film en sans surround, qui était un procédé à l'époque, mais c'est trop coûteux, donc il va bricoler lui-même quelque chose, mais le résultat, et les spectateurs de la première mondiale à Cannes s'en souviennent, c'est que tout d'un coup, il y a une spatialisation du son dans la salle de cinéma. Vous verrez ça ce soir, il y a un côté très prégnant des hélicoptères, du vent. Alors vous allez me dire, on a entendu ça depuis, mais c'est Coppola est neuf, fait quelque chose de très nouveau à l'époque. Pour la musique, il a fait appel à son père Carmine Coppola, qui fait une orchestration classique, mais avec l'accord donc de son musicien, Coppola a l'idée de repasser tout ça au synthétiseur, ce qui permet d'assimiler par exemple la contrebasse au bruit des hélicoptères, les violons au vent, et la bande sonore, la richesse de la bande sonore d'Apocalypse Now, c'est qu'il y a un mélange vraiment des bruits et de la musique. C'est vraiment un concept sonore, et c'est pour ça que Walter Murch va avoir un Oscar très mérité pour ce film-là. Alors, Coppola a envie de montrer la folie de cette guerre, le côté, il le dit lui-même, surréaliste. Et plus le film avance, plus c'est surréaliste, avec notamment un élément visuel que vous repérerez très facilement, ce sont les fumées. L'armée américaine utilisait des fumigènes et des fumées de couleur pour permettre à leurs hélicoptères et à leurs avions de se repérer sur le sol, pouvoir atterrir ou pouvoir des lieux de bombardement. Et lui, il va petit à petit utiliser ces scènes-là comme, j'allais dire, une ambiance boîte de nuit et un côté psychédélique. Souvenez-vous qu'à l'origine, le film s'appelait Le Soldat psychédélique, et même le titre Apocalypse Now, c'est une allusion au grand slogan hippie de l'époque qui était Nirvana Now. Et là, évidemment, c'est plus le Nirvana, c'est plus, même si la drogue est très présente dans le film, c'est l'Apocalypse Now.
It's impossible for words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies.
Yeah.